Nous sommes toujours aux Utopiales.
Toujours.
On est toujours samedi soir. On vient toujours de finir avec Manuel Bédoué et parce qu'il ricanait dans son coin, on a attrapé John Grumpf pour lui poser tout plein de questions à notre tour.
Ouais, salut.
Salut. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire aux Utopiales, toi ?
Visiter en touriste, voir des copains qui m'avaient annoncé sur forum qu'ils étaient dans le coin, voir d'autres copains que je ne savais pas qu'ils étaient dans le coin, mais finalement, ils y sont quand même. Et essayer d'écouter deux ou trois conférences et regarder les illustrations de Manchou parce que voilà quoi.
Tu essaies de nous dire que tu as pour une fois rien à vendre, tu ne viens pas de finir un truc ou tu n'es pas en train de finir un truc?
Alors si, j'ai fini un truc jeudi soir, j'en ai commencé un autre jeudi soir qui sera fini demain soir et lundi j'attaque autre chose. Mais non, là je suis venu en pur touriste quoi.
Ça marche.
Pour une fois, ça fait un peu de bien aussi.
Et alors, est-ce que tu peux parler des trucs que tu viens de finir déjà ?
Alors, dans les trucs officiels que je viens de finir, qui sont finis déjà depuis un mois, j'ai sorti Nanochrome 2, enfin la deuxième version, dans ma collection Chibi sur lulu.com. Et puis, avant ça, cet été, j'avais sorti un petit recueil de plans. Vite réalisé parce que c'était fun à faire et que cette semaine-là j'avais pas grand chose d'autre à faire et donc ça c'est pour l'actu officielle. Et puis là j'étais un peu en mode glandouille en fait, en mode procrastination parce que j'ai travaillé sur la maquette de Summer Camp premier bivouac de Paradox. Sauf que ça m'a pris quelques jours parce que j'ai procrastiné à mort et quand je procrastine en général je me mets à faire quelque chose que je devrais pas faire et que je fais quand même. Et là en l'occurrence je me suis traduit pour moi tout seul dans mon coin un petit jeu américain que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup impressionné. Et quand j'ai eu fini la traduction je me suis dit il faudrait quand même que je contacte l'auteur parce que ça vaudrait quand même le coup d'en faire quelque chose. Et là j'attends une réponse. Mais le jeu est traduit donc voilà. Et puis comme je viens de finir ça et qu'on me tanne depuis des années pour bosser sur un univers de jeu avec lequel je ne peux pas jouer parce que les règles sont nulles et que ça fait des années que je n'arrive pas à trouver le système qui va avec. Et je me suis débloqué Hearthstone. Et je me suis débloqué jeudi soir après une longue discussion avec ma moitié. Voilà, grâce à mon quasit personnel. Et j'ai trouvé une soluce, j'ai trouvé comment faire et normalement demain soir le premier jet devrait être en ligne sur Cassius Snow parce que voilà, c'est toujours fun de faire.
Demain soir ?
Oh ouais, je pense.
C'est bien, on aura fini les Utopiales, c'est parfait.
J'ai quasiment fini et je pense que je vais y passer la journée de demain. De toute façon, c'est important que j'ai fini parce que lundi matin, j'attaque les illustrations pour le prochain Bloodlust et il faut que j'enquille parce qu'après j'ai une deadline et après j'ai un autre truc à faire et je peux absolument plus procrastiner, là c'est fini. J'ai épuisé ma quinzaine de...
C'est la fin des vacances.
C'est la fin des vacances. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'attire comme ça dans l'univers d'Hearthstone ?
Bah, on a fait une longue campagne il y a des années.
Tu peux jouer des hommes ptérodactyles, bordel ! Qu'est-ce qu'il te faut de plus ?
Tu peux jouer des Obsidiman, surtout.
Moi, je jouais un troll Skyrider. On est monté niveau 9 quand même, au bout de 3 ans de campagne.
Ah, c'est pas mal,
cercle 9. Et c'était une super campagne, mais à l'époque le système était vachement impressionnant parce qu'il était hyper unifié. Je parle à l'époque 97-18, c'était impressionnant d'avoir un système unifié qui soit aussi mêlé à l'univers et dans lequel en fait l'univers se reflète et il reflète lui-même l'univers. Enfin, c'était tellement intriqué que c'était vraiment quasiment une révolution. Sauf que, bon, il faut bien reconnaître que 15 ans plus tard, ça pique de se remettre dans des systèmes aussi compliqués, aussi techniques, avec autant d'exceptions, avec autant de règles secondaires, avec autant de trucs dans tous les sens, et que c'est juste plus possible, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas le temps de me remettre dans autant de techniques, ça m'intéresse pas, je maîtrise pas comme ça, et mes joueurs suivront pas. Donc ça fait longtemps que je sais que sur les forums on en discute régulièrement. Par quoi on pourrait remplacer le système d'Hearthstone ? Le système d'Hearthstone, le problème c'est qu'il est quasiment irremplaçable tellement il est intriqué à l'univers et inversement. Donc il faut des choses qui rendent exactement les mêmes effets ludiques, le même gameplay, mais en plus simple. Les systèmes Savage World ou même Pathfinder, même s'il y a eu des adaptations de fait, c'est très bien pour avoir éventuellement des points de comparaison techniques pour éventuellement avoir tout d'un coup des appuis différents, des rebonds différents pour réfléchir à ses propres choses, mais ça résout rien, quoi. Et c'est très compliqué. Enfin, c'est autant d'intrications entre l'univers et les règles font que c'est faut démarricoder, enfin le démarricoder le truc et le remonter derrière. C'est un boulot de conception de folie, quoi, et pour lequel jusqu'à présent j'avais rien trouvé, quoi. Et là ça s'est débloqué en ah mais en fait on pourrait simplifier comme ça, et pouf, après c'était facile, quoi. Voilà.
Ah bah génial.
Donc mais bon, alors ça c'est l'excitation du moment parce que je suis
bien
dedans.
Sûr.
Demain soir, si ça se trouve, je vais déchanter quand je vais poster ma version et que tout le monde va me dire non, mais en fait, c'est tout pourri ton truc. Mais parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont relativement très intéressés par le sujet et très critiques de ce qu'on peut en faire et qui ont des attentes très précises de ce que devrait être un système pour Hearthstone. Et là, justement, les prochains jours vont être très intéressants parce que là, on va rentrer dans le. On va pouvoir commencer à tailler dans le gras, quoi.
Écoute, moi, il y a moins d'un an, on a relancé du Hearthstone. J'étais obligé de faire une feuille Excel pour créer les personnages. Si tu peux éviter ça, déjà.
Bah, écoute, a priori, je suis parti sur une base OTU, Hunters of the Unknown, donc qui est tiré du Searcher of the Unknown de Snorri, qui tient en une page. Et moi, j'en ai fait un truc qui tient en un peu plus de pages, mais qui est tout aussi simple à jouer. Et je crois que j'ai trouvé comment l'angle d'insertion de l'univers dans... je me dis, j'ai déjà mené un an et demi de campagne de Warhammer avec OTU, et ça a fonctionné du feu de Dieu avec tout ce qu'il fallait de gritty et de violent et tout. Je présume que ça marchera très bien pour... on a même adapté, sous Rotu, on a adapté Bloodlust, ça fonctionne. A priori, si on peut pas adapter Hearthstone, c'est bien le bout du monde, quoi.
Je vais te parler un petit peu de ton processus, notamment ton processus de développement de jeu. Processus créatif, on y reviendra sans doute à une autre occasion, mais ça nous prendrait beaucoup de temps. Très vite, tu mets tes jeux à disposition du public sous la forme de « ce n'est qu'en cours, mais critiquez-moi déjà ». Très souvent, sur Cassius Eno ou ailleurs, tu permets à la communauté... Même à des gens que tu connais pas du tout, de venir ouvrir leur gueule sur ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu le fais aussitôt ? Qu'est-ce que t'en tires ?
En fait, comme à la base, je viens quand même de la CJRA, enfin des JDRA, voilà. Il y avait ce côté évaluation permanente, partage, émulation, voilà, sans concurrence et sans se poser de questions. Moi j'en tire que mine de rien les retours, plusieurs cerveaux ça fonctionne toujours mieux qu'un seul. Les réseaux corticaux c'est bien, l'intelligence commune c'est bien, que j'ai pas la science infuse, que des fois je sais pas, et puis je pique plein d'idées à plein de gens, j'en profite aussi, et puis des fois on a des intuitions qui sont pas forcément les bonnes, et puis des fois on a des intuitions qui se révèlent intéressantes mais qui sont encore mieux quand d'autres repassent dessus. Typiquement le dernier exemple c'est je sais pas, trois jours avant de sortir La Lune et 12 Lotus l'été dernier, j'étais en train de bosser sur la maquette et j'ai une partie le mercredi soir, on joue par Hangout avec une bande de copains qui de toute la France, quoi. Et il en manquait plusieurs et pour la fin d'année il en manquait plein et il restait quand même quelques séances où on pouvait continuer à jouer. Et il y a un des autres joueurs à qui j'avais envoyé le jeu. Le brouillon et tout, qui nous a maîtrisé et qui m'a fait des retours sur un point de règle qu'il a factorisé. Qu'il a simplifié à mort. Là où j'avais besoin d'écrire à chaque fois 5 mots, tout d'un coup j'en avais plus besoin que d'un. Et c'était tout con, hein, c'était juste une factorisation qui changeait rien à l'équilibrage du jeu, mais qui permettait tout d'un coup d'éviter 12 explications complexes et d'en avoir qu'une seule simple. Ça a été immédiatement intégré au jeu. 3 jours avant la sortie du bouquin, quoi, enfin, ou quasiment une semaine avant, quoi. Et ça, c'est le genre de choses qui n'est possible que parce que des gens mettent le nez dedans et me font des retours. Alors, c'est vrai que je bosse, enfin, je sors, mais je seul la plupart du temps, enfin, c'est Chibi en tout cas, bon, c'était pas le cas chez JD, hein, mais même chez JD, je fonctionnais déjà comme ça, et je fonctionne toujours comme ça, mais chez Chibi, je sors mes jeux tout seul dans mon coin, sauf que en réalité, mon éditeur, c'est la communauté, d'une part essentiellement sur Cassius No, mais aussi à tous les gens à qui j'envoie mon que je connais, qui sont des potes, et à qui j'envoie mes brouillons en avance, et qui me font des retours, des relectures, des tests de leur côté, qui me font l'honneur de bien vouloir faire jouer à mes jeux avant qu'ils soient sortis. Et c'est tous ces gens-là qui avec qui aussi je me retrouve l'été. Enfin, on se retrouve à la maison l'été. On fait, comme dit ma femme, on fait l'hôtel de Rambouillet à la maison tous les étés. Et on teste et on a des retours. Et comme ils savent que je suis pas spécialement, je suis pas une noix blanche pour les retours. Ils y vont, quoi. C'est-à-dire que il y a pas de problème. Ils peuvent attaquer dur. Ça fera. C'est pas grave. Et c'est pareil sur les forums, on peut attaquer dur mes trucs. Moi, de toute façon, si je fais le choix final, je décide si le retour m'intéresse ou m'intéresse pas. Et s'il m'intéresse, je l'inclus. S'il m'intéresse pas, je l'inclus pas. Mais de toute façon, le jeu n'en sortira que plus fort, plus puissant, plus intéressant. Et pas forcément plus consensuel pour autant. Enfin, parce que je cherche pas forcément consensuel non plus, quoi. Mais simplement, je sais qu'à certains moments, je vais toucher certains types de joueurs, d'autres jeux vont toucher d'autres types. Mais de toute façon, tous ces joueurs-là vont à chaque fois lire quand même mes bouquins, me faire des retours et amener leurs petites briques, que ce soit j'aime ou j'aime pas, mais des trucs plus précis ou des approches plus précises. Mais de toute façon, ils vont amener des choses, quoi. Et ça, c'est inestimable, quoi. Enfin, faut oser faire ça, mais une fois qu'on le fait et surtout qu'on accepte les retours, ça fonctionne. Enfin, c'est bien, quoi. Voilà.
Mais ça donne l'impression que tu as dépassé depuis très longtemps l'angoisse de montrer ton travail avant que ce soit fini, quoi.
Ouais, parce que c'est pas grave. Enfin, je veux dire, l'ego, il est pas là. Enfin, l'ego, il est dans le produit final. Ça me ferait chier de jalouser mon travail pour sortir un truc bâclé, quoi, pour sortir une purge, quoi. Je préfère partager, échanger, m'en prendre plein la gueule avant que après. Parce qu'une fois que le bouquin est imprimé, fini, maquetté, etc., et qu'il vit sa vie, c'est plus le moment de commencer à faire ses mijaurées, quoi. C'est avant, quoi. Et c'est con, j'ai quand même l'impression que le travail collaboratif est vachement plus puissant que le travail compétitif, et que le chacun pour soi et les autres sont tous des cons, quoi. Enfin,
il n'y a pas que ces deux extrêmes, mais ok.
Voilà, enfin, il n'y a pas que ça. Mais
t'as une préférence.
Voilà, c'est vrai que moi je préfère le collaboratif, quoi. Enfin, je préfère partager mes trucs.
Ouais, manifestement.
Bon, après, je dis pas que il y a aussi de l'ego là-dedans, parce que c'est vrai que balancer 10 projets par an, il y a un petit côté, j'occupe le terrain, je suis sur la scène, et non, vous m'en ferez pas descendre. Je dis pas non plus le contraire. Enfin, je veux dire, faut aussi des fois être un peu franc avec soi-même, quoi. Enfin, j'apprécie entre guillemets. J'apprécie le statut que j'ai fini par atteindre quelque part à force de justement d'être dans ce partage et dans cette disponibilité entre guillemets, quoi. Parce que c'est pas désagréable, faut le dire, mais c'est pas non plus la ferme célébrité, quoi. Enfin, je suis pas là pour faire du la télé-réalité du créateur de jeux de rôle, quoi.
C'est dit, on est dans du jeu de rôle, donc si tu veux, la célébrité reste quand même
extrêmement relative. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du je suis pas le Kim Kardashian du jeu de rôle, quoi. Je présente des jeux, mais je présente que des jeux, quoi. Le reste, je m'en tape un peu, quoi. Tu vois, mais voilà, ça reste.
Fais voir les photos au maillot de bain, on en reparle. Ouais.
Mais ça, de toute façon, ça fait toujours plaisir de balancer des docs et puis d'en discuter et puis d'échanger. Enfin, je veux dire, ça voilà. Enfin, c'est quand même de on va l'avouer, c'est aussi de la nourriture pour l'ego et c'est aussi un moteur. Une motivation pour continuer à créer, pour continuer à avancer, pour rester au taquet, quoi. Pour rester affûté sur les boulots qu'on fait et pas s'engourdir dans une espèce de j'ai fait un super jeu, bon maintenant je peux vivre dessus, quoi. Et voilà.
En termes d'édition, t'as testé beaucoup de formules, tu as publié de plein de manières différentes. Ces temps-ci, j'ai l'impression que ta préférence se resserre doucement vers l'autopublication. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton expérience passée, tes choix actuels?
Tout est bon dans le cochon, quoi. Avec JD, on a fait l'édition classique. Avant JD, c'était Ballon Taxi. On était un studio et on travaillait pour un éditeur. Mais en réalité, c'était très confortable parce que on finissait le fichier, on l'envoyait à l'éditeur et c'est lui qui se chargeait de toute la partie pète-couille de suivi imprimeur, etc. Avec JD, on a mis les mains dans le cambouis et puis on a appris à travailler avec les imprimeurs et avec le distributeur et à faire un suivi, etc. On s'est rendu compte aussi qu'on était extrêmement mauvais en communication. Et ça va pas changer avec le temps, hein, faut pas rêver. Ben, mine de rien, je pense que tout ça, c'est aussi lié à une évolution des possibilités technologiques et techniques et du marché lui-même. C'est-à-dire qu'on a pu monter une boîte d'édition parce que les outils de la PAO et de la gestion de bouquins se sont démocratisés. C'est clair. Si aujourd'hui je fais effectivement tout en continuant à bosser avec JD et à continuer à faire vivre JD sur un certain nombre de projets, on bosse aussi, enfin moi je bosse en auto-édition sur le LU, mais parce que c'est une nouvelle démocratisation, c'est une nouvelle une nouvelle possibilité qui nous est offerte, qui n'existait pas avant. Plus exactement, l'ULU existe déjà depuis une dizaine d'années, mais ou un peu plus, sauf qu'au début c'était pas très très bon et que ça s'est vraiment bien amélioré avec le temps et qu'aujourd'hui les bouquins ils sont presque nickel, quoi. Donc voire nickel quand on sait éviter les 2-3 petits pièges de PAO qui rendent les bouquins nuls. Mais une fois qu'on évite ces pièges là et qu'on fait une PAO qui est ajustée au format Lulu, on fait des bouquins qui n'ont rien à envier à des vrais trucs, quoi. Enfin, à des bouquins soi-disant imprimés par un vrai imprimeur à 1000 exemplaires ou 1500 exemplaires vendus en boutique, etc. On a des choses qui sont très bien. Mais ça encore, c'est aussi l'évolution des moyens technologiques qui permet ça. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, tout le monde est équipé en Internet et que le réflexe d'achat par Internet est aujourd'hui démocratisé, alors qu'il y a ne serait-ce que 4-5 ans, quand on regardait sur les forums, les gens disaient « Ah non, mais acheter par Internet, je veux pas, j'achète jamais par Internet, je vais jamais sur DriveThruRPG, je commande jamais mes bouquins par machin, je tiens ma boutique, etc. » En 5 ans, le réflexe clic et payer est devenu... c'est complètement automatisé, quoi. Et il suffit juste maintenant de trouver les tuyaux pour que l'information où acheter les jeux arrive au public. C'est la seule chose qui reste encore vraiment à faire, quoi.
Ça marche. Ben justement, j'allais te poser la question de comment tu vois l'avenir du jeu, que ce soit en termes de prospective des tendances que tu perçois toi, ou plus largement et plus librement, les choses que tu espères, les trucs que tu désires, et machin, que tu aurais envie pour la suite, quoi.
J'aimerais bien qu'il y ait plein de joueurs et que ça se démocratise au niveau. Enfin, ça se généralise en termes de gens qui jouent et qui trouvent du temps pour jouer. Et donc ça c'est le premier truc. Et puis après l'avenir, bah de toute façon on a les formats en fait se multiplient tellement en termes de longueur de bouquins. On a toujours des bouquins qui font 400 pages tout couleur, couverture cartonnée A4, et puis on a des bouquins qui font 50 pages A5 imprimé à la demande, et puis on a des formats de jeux qui vont du full air system où on fait semblant de lancer les dés à des trucs hyper lourds avec où on stack des stats dans tous les sens. La diversité est telle aujourd'hui que je vois pas comment le jeu ne peut pas grandir et s'améliorer et devenir de plus en plus important. Enfin, aujourd'hui, on a des jeux qui sont capables de toucher tout le monde, ou presque. Et on commence à avoir des choses qui sont vraiment capables de toucher des gamins, avec des jeux extrêmement simples, avec trois caracs. Il y a des locomotives super lourdes, plein de règles, d'autres locomotives super lourdes, mais plein de background, et puis des petits jeux où on crée autour de la table, et puis... c'est tellement, puis des narrativistes, des story games, des machins, c'est tellement varié et possible que la seule chose qui est à craindre, entre guillemets, et encore, c'est l'effritement, en fait, des achats, enfin, des actes d'achat. Mais même ça, c'est pas grave. Et puis, je vois ça, un des gros trucs qui fait que le jeu de rôle va survivre et va s'étendre, c'est des choses comme l'auberge virtuelle,
oui.
Où il y a 300 joueurs qui sont capables, ou plus, qui se réunissent sur un Google Plus pour se fixer des parties par Hangout et jouent alors qu'ils sont aux quatre coins du monde. Et ils sont capables de se retrouver. On se donne rendez-vous le soir, mais on peut aussi se donner rendez-vous dans la journée pour une partie. Et puis, qui sait qui a envie de jouer aujourd'hui? J'ai 3 heures devant moi, là, je fais rien. Qui sait qui a envie de jouer avec moi, là, maintenant? C'est des actes de jeu qui sont complètement beaucoup plus, simples et spontanés. Et ça, c'est une énorme chance. Et dans quelques années, les outils vont encore évoluer et on aura encore d'autres possibilités pour faire des choses. Assez extraordinaire, et je pense qu'on va continuer à jouer, quoi. De toute façon.
Oui, voilà. Ça paraît évident. Tu parlais de Drive-Thru, peut-être pour terminer un peu tout ce sujet-là. Tu parlais de Drive-Thru RPG. On n'a pas vraiment de plateforme en France, à part Lulu directement, qui permette la même chose, et notamment la diffusion à la fois en PDF et à la fois en impression. Est-ce qu'il faut passer, à ton avis, par Drive-Thru, la plateforme qui devient mondiale en ce moment, puisqu'on y trouve des jeux américains, allemands, espagnols, français, etc. Ou est-ce qu'il faudrait développer peut-être un truc français, je sais pas.
Alors moi je sais pas, moi je suis pas sur Drive-Thru parce que clairement pour une raison purement financière, pour l'instant en tout cas, c'est que les conditions financières, enfin les marges qu'on peut faire sur Drive-Thru sont inférieures à celles qu'on fait sur Lulu.
Okay.
Nettement, pour un prix égal, on touche plus sur Lulu que sur Drive-Thru. Par ailleurs, Drive-Thru, ça reste essentiellement anglo-saxon.
Oui, tout
et
à fait.
Pour l'instant, moi, j'ai pas de public anglo-saxon. Enfin, ça viendra peut-être si j'ai des trucs de traduction, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Après, ça, oui, effectivement, ça n'existe pas. Enfin, Drive-Thru n'existe pas en France, mais parce que le marché est pas le même. Enfin, quand tu regardes sur Drive-Thru, tu y vas tous les jours. Enfin, même si tu y vas tous les jours. Quand t'arrives, t'as toujours, il y a 22 nouveaux produits depuis que la dernière fois que vous êtes connecté. Il y a 19 oui. nouveaux produits depuis la dernière fois que vous êtes connecté.
Qui sont rarement tous intéressants. Mais...
Il y a 1% des trucs qui sortent qui sont intéressants. Faut pas se leurrer. Il y a 99% des trucs qu'on trouve sur Drive-Thru qui sont inutiles ou pas intéressants ou mal boutiqués ou faits de manière foireuse. Mais en gros, Drive-Thru, c'est aussi une plateforme pour ce que nous en France on appelle les JDRA.
C'est-à-dire qu'en
France les JDRA, enfin c'est des trucs on le met gratuitement à disposition parce qu'on a fini un truc et ça fait plaisir de le mettre. Aux États-Unis ils ont une culture de, j'imagine, je fais un truc, je peux le vendre, enfin, je peux monétiser tout ce que je peux faire. Et Drive-Thru favorise complètement l'idée que je fais un truc, je le monétise, même si c'est une page avec une liste, un tableau de liste que normalement vous devrez finir sur un bout de blog ou à la scénariothèque, et qui là va être sur Drive-Thru à même 99 centimes, enfin peu importe, même à $1 quoi. Mais on monétise. Alors ils ont mis en place les Pay What You Want qui sont vachement bien et qui pour le coup sont une bonne réponse à ça. Mais c'est vrai que la situation anglo-saxonne n'est pas tout à fait la même. À la fois dans l'histoire du JDR et puis enfin dans leur histoire du JDR et dans leur approche des choses que nous et même pas en termes de quantité de production, parce que enfin encore une fois sur Drive-Thru tu te branches et tout de suite t'as les grosses locomotives, t'as les trucs officiels et puis t'as une quantité de produits secondaires d'aides de jeu, de nouvelles classes de perso, de nouveaux trucs pour Dungeon World, de nouveaux trucs pour machin, etc. Des trucs OSR, des scénarios, énormément de scénarios OSR qui sont publiés sur Drive-Thru. Des fois des trucs qui font 5 pages, 10 pages, 12 pages, 25 pages, et qui sont vendus. 25 pages, c'est $5, vite, hein, en France, on a une culture différente. Snorri, quand il sort le dodécaèdre, on récupère des pages et des pages et des pages de scénarios, d'histoires, de machin, gratos. Même Batranoban, ses scénarios pour Empire dans les Terres de Légende, là où qui est Royaume de Légende, ils sont tous gratos sur Drive-Thru et on les trouve comme ça. Alors que c'est des gros morceaux aussi. Et c'est une autre culture. Enfin, c'est une autre manière d'aborder les choses, quoi.
Écoute, je te remercie.
Et de rien. Au revoir.